RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec notre maître Yodu, Yoann Durand, direct du Kenya. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Et toi alors, comment ça va?
Eh ben écoute, impeccable, ça y est, ça fait 3 jours que je suis kényan, donc là, je peux te dire, j'ai déjà des coups de soleil. Je cours à 5,30 au kilo à fond, il n'y a rien qui va.
tu souffres de l'altitude là, ça y est?
Non, mais je démarre doucement, tu sais, l'acclimatation, c'est super important. Et puis là, on est à 2450 mètres d'altitude, donc faut pas partir trop vite, quoi. Donc faut y aller polé, comme ils disent ici.
Exactement, et on est ravis de pouvoir suivre tes aventures. Je précise que d'ailleurs, dans les prochains jours, il y aura un épisode consacré à ta prépa Marathon de Paris, à toi, hein, parce qu'on parle beaucoup des autres, mais on s'intéressera à toi. Comment tu t'organises, le stage au Kenya, quelles seront les séances clés, etc. On va se régaler. Je remercie toute la communauté RMC Running pour le soutien. Vous nous rejoignez dans le club RMC Running sur Strava, sur le compte Instagram. Vous allez sur la chaîne RMC Sport de YouTube pour suivre la prépa de notre équipe Marathon de Paris. C'est tous les mardis, je vous rappelle le rendez-vous en début d'après-midi. Et puis une annonce importante, nous allons enfin lancer cette thématique des mamans runneuses. On a bien pris en compte les candidatures qui sont déjà tombées. Si vous êtes intéressé, vous êtes mère de famille, vous êtes une passionnée de course à pied, eh bien vous postulez à l'adresse suivante, podcast RMC Running tout attaché. @gmail.com et comme ça on pourra en parler, en discuter avec vous et voir ce qu'on met en place. La thématique du jour va tous vous intéresser, elle est concernante pour tout le monde. Yoann, est-ce que le poids est l'ennemi du coureur? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Vous connaissez cette formule, hein, tout le monde le dit, chaque kilo superflu ça fait perdre des secondes à chaque kilomètre, comment on calcule son poids de forme, les règles de base de l'alimentation, le danger des troubles alimentaires. Pour en parler avec nous, on va recevoir Violette Duval qui est nutritionniste et diététicienne, elle collabore avec le club du Stade Français. Et puis on aura un bon plan matos qui est lié à cette thématique, la balance Tanita, une balance intelligente qui vous aidera à calculer la masse graisseuse, la masse musculaire, le taux d'hydratation. Donc voilà, c'est l'outil parfait pour se connaître parfaitement et aller dans la bonne direction. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. Aujourd'hui, on détermine le poids de forme.
Est-on meilleur en course à pied quand on est mince?
Pourquoi avoir cette obsession du poids quand on fait de la course à pied?
Est-on obligé d'être affûté comme une lame de rasoir pour pouvoir courir? Ou est-ce qu'on s'en moque éperdument?
Je n'ai pas mangé depuis des jours.
Les impacts que j'ai sur mes tendons sont énormes.
Tu veux pas une petite tartine?
Si je vous dis que chaque kilo en trop vous coûte environ 2 à 3 secondes au kilomètre, soit 30 secondes sur un 10 km et 2 minutes sur un marathon. Est-ce que ça vous fait réfléchir un petit peu à votre régime alimentaire?
Je mangerais bien une petite choucroute.
Le surpoids a des conséquences sur votre pratique et sur vos performances.
Oh, j'ai faim.
La course à pied est définie comme un sport à enjeu de poids, c'est-à-dire un sport où le poids est considéré comme un facteur important de performance.
Est-ce qu'il fromage blanc sans matière grasse avec du calcium, des vitamines, des protéines pour être bien dans sa tête et dans son corps, il n'y a rien de meilleur?
Est-ce que je dois perdre du poids avant ma préparation marathon?
Mangez bien un petit bout de chocolat.
La course à pied est principalement régie par la physiologie et la biomécanique.
Bon, et ben moi je commence à avoir un petit creux énorme.
C'est vrai qu'on a faim. On a faim soir et matin, notamment au Kenya quand on s'envoie des kilomètres, Yoann.
Ah ouais, pour l'instant ça va, mais je sens que si on avait fait cette thématique dans 15 jours, ça aurait été compliqué. Parce que bon, là, c'est pas la même alimentation qu'en France.
Hein. Ah, tu m'étonnes, tu pourras nous en parler d'ailleurs. Violette Duval à mes côtés. Salut Violette.
Salut.
Merci d'être là, spécialiste du sujet, nutritionniste, diététicienne. Et tu accompagnes donc des coureurs du Stade Français. Donc toi, t'es en relation, c'est un cas concret. Tu accompagnes des coureurs de très bon niveau d'ailleurs, jusqu'au marathon. Donc tu connais exactement les problématiques du coureur et de la nutrition alors.
C'est ça, j'accompagne différents coureurs, donc avec différents niveaux.
Ouais.
Et même si on a des problématiques qui sont très similaires pour chacun d'entre eux, ça évolue forcément en fonction des objectifs.
Est-ce que toi, tu cours d'ailleurs?
Oui.
Ancienne triathlète et aujourd'hui de la course à pied, c'est ça?
C'est ça, je faisais du triathlon et puis je suis passée juste sur la course à pied parce que c'est ce que je préférais.
Bon, c'est la question qu'on pose d'ailleurs à chaque début de podcast, pourquoi tu cours tout simplement?
Pour plein de choses, pour ma santé, pour me vider la tête, pour me dépasser, pour rencontrer du monde aussi.
Et ben voilà, écoute, plein de bonnes raisons. Donc je l'ai dit, tu es spécialisée dans l'accompagnement des sportifs. La question que je me suis posée en préparant l'épisode, c'est est-ce que tu donnes les mêmes conseils aux sportifs de sport d'endurance qu'aux autres? Est-ce qu'il y a des différences malgré tout dans l'alimentation? Comment ça se passe? Il y a un socle commun, j'imagine?
Il y a un socle commun. Après, il y a quand même une grosse différence entre les sports de force et les sports d'endurance. On est quand même sur deux pôles assez distincts. Après, dans les différents sports d'endurance, en général, il y a quand même des grosses similitudes, que ce soit du triathlon, de la course à pied, du trail, même si chaque sport a ses spécificités.
Ouais. Johan, toi, le poids, ça n'a jamais vraiment été une question. Hein. On le dit à chaque fois, mais tu n'es pas le genre de mec qui monte sur la balance tous les matins. Hein.
Ouais, exactement. Ouais. Mais ça, c'est plus une chance de mon métabolisme. J'ai toujours été relativement mince et j'ai jamais, même en période de coupure, tu vois, quand je cours pas de 3 semaines, je vais prendre 1 ou 2 kilos que je vais reprendre, que je vais reperdre ouais. très rapidement. Donc ça, c'est une force. Et donc, j'ai jamais vraiment connu cette difficulté où bah, quand tu es en coupure ou quand tu es blessé, que tu prends 10 kilos et qu'il faut les reperdre, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais dans les disciplines d'endurance et de fond, chaque kilo vraiment superflu, c'est quand même pas, c'est quand même pas un atout avec soi. Donc non, c'est une chance, mais c'est lié à mon métabolisme et ça... je le dois plutôt à mes parents ou à mes parents qui sont plutôt mecs qu'à moi-même, là, pour le coup.
c'est de la génétique, quoi, c'est ça.
ouais, bah, je dirais ça, ouais.
Avant d'entrer dans le détail, Violette, qu'est-ce que tu penses déjà du titre de l'épisode ? Est-ce que le poids, c'est l'ennemi du coureur ? C'est un peu provoque, hein, forcément, mais est-ce que c'est ton avis en tant que nutritionniste ?
Je pense qu'il faut déjà différencier le poids en lui-même du rapport poids-puissance de la composition ouais. corporelle. Ouais. C'est vraiment deux choses différentes. Chaque kilo supplémentaire n'est pas forcément un kilo de graisse. Il y a des coureurs qui ont une morphologie qui leur est propre. On a tous notre morphologie. Mmh. Donc, le poids en tant que tel, déjà, ne veut pas dire grand-chose. Après, effectivement, sur le taux de masse grasse ou les kilos qu'on peut prendre en fonction de... des événements, de la saison, etc., peuvent effectivement avoir une influence, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une exigence qui peut être néfaste pour la santé derrière.
Exemple concret, Johan fait à peu près quoi, 61, 62 kilos, Johan ?
Ouais, ouais, c'est ça. Exactement, tu me connais bien.
Et voilà, je le connais par cœur. Moi, j'en fais 10 de plus. Il n'y a aucun intérêt pour moi à perdre 5 ou 6 kilos pour me dire je vais progresser en course à pied. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire le calcul.
Non, ça dépend, parce que ça dépend aussi de la différence de taille. Ça dépend
on fait
de...
la même taille, hein, pourtant.
on doit faire la même taille, ouais, mais on n'a pas ça. Les mêmes mollets.
Ouais, c'est ça le truc. Ouais.
mais ça dépend de plein de choses, de la génétique aussi. Si toi, perdre 5-6 kilos, ça va te coûter un gros effort et une grosse restriction énergétique. Mm. C'est peut-être plus à risque que de t'entraîner aujourd'hui avec une bonne disponibilité énergétique, d'être en forme, de te sentir bien, et même s'il y a un petit peu plus de poids à transporter.
Comment tu réagis, toi, en tant que spécialiste, quand tu entends les choses qu'on a entendues dans la production sonore, signée Julie Deroux, d'ailleurs, notre réalisatrice aujourd'hui. Voilà, chaque kilo perdu, chaque kilo superflu, c'est 2 ou 3 secondes supplémentaires au kilomètre. Ces règles-là, qu'est-ce que tu en penses, toi, alors ?
J'ai essayé de comprendre d'où elles venaient ouais. et comment elles avaient été mises en place. Et en fait, c'est assez difficile d'évaluer l'impact des kilos en trop. Et donc, pour faire ces études-là, en général, c'est fait avec des gilets lestés ou des systèmes de délestage.
Ouais.
Donc, j'ai du mal à considérer que c'est très représentatif, en fait, du terrain.
C'est vrai que, comme toi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais si on fait une étude de gilets lestés, ça n'a aucun sens, parce que le poids n'est pas réparti, le poids est uniquement sur le dos. Enfin, ça n'a pas vraiment de valeur, en fait, quand on se dit ça. Quand on prend du poids, c'est un ensemble, et puis le poids est absorbé par l'ensemble de l'organisme.
C'est ça, et puis ça dépend si on a pris que de la graisse, si on a pris un peu de muscle, un ouais. peu de graisse. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend où on l'a pris aussi. Est-ce ouais. qu'on va stocker plutôt dans les jambes ou est-ce que c'est du poids sur le haut du corps ? Mmh. Les marathoniens sont en général assez peu musclés du haut du corps.
Ah ouais.
Donc, ils essayent aussi d'optimiser la répartition du poids sur l'ensemble du corps.
Est-ce que plus la distance s'allonge, plus le poids est handicapant, d'ailleurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'avoir un peu de kilos superflus, c'est moins gênant pour un coureur de 10 km que pour un marathonien ?
Je ne suis pas certaine.
Ouais.
Je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences. Par contre, au niveau de la masse musculaire, ce qu'on observe, c'est que plus la course s'allonge, en tout cas sur des courses de route, mm-hmm. Moins la masse musculaire est importante. Donc ça peut être une petite différence sur le poids absolu. Mm. Par contre, on cherche toujours un rapport poids-puissance optimal. Donc on cherche toujours un taux de masse grasse qui est quand même relativement bas, peu importe la distance.
Ouais. Yodu, est-ce que ta morphologie a évolué en fonction des distances que tu parcourais quand tu étais coureur de piste ouais. comme ça ou quand tu es devenu marathonien ?
Bah, tu sais, quand tu es coureur de piste, coureur de 1500, 3000, 5000, tu as quand même besoin de puissance. Tu fais quand même beaucoup de musculation qui fait que tu es un petit peu plus puissant, un petit peu plus véloce au niveau des jambes, au niveau du bas du corps, même au niveau du tronc, un peu du haut du corps, t'es quand même un petit peu plus solide que quand je suis monté sur des distances longues où là, rien que le fait de faire des kilomètres, des bornes et faire beaucoup d'entraînement, bah, te fait fondre un peu naturellement.
Ouais.
Et effectivement, t'as moins besoin de cette puissance que quand je faisais du 1500. Et tu le vois, hein, sur le marathon, les gabarits devant, même chez les coureurs africains, ils sont tout maigres. Ouais. Et sur les coureurs 800, 1500, 5000, c'est malgré tout des mecs un petit peu plus charpentés, qui ont un peu plus de force et qui courent vite. Donc, mais après, voilà, ça, c'est la morphologie, c'est le rapport, exactement, le rapport poids-puissance qui est le plus important. Ouais.
Quand tu commences...
Et après, si tu montes sur le trail, tu vois, quand tu vas sur le trail,
c'est différent,
t'es
plus tanké, ouais.
250 km. Mais là, c'est des. Là, musculairement, t'es obligé d'être tellement solide pour encaisser les chocs, pour les monter et les descentes, que là, c'est pareil, c'est des gens qui ont des très grosses cannes, ouais.
Ouais, c'est vrai que à la morphologie, on pourrait deviner la discipline de chacun si on est un
peu
habitué.
Un peu, c'est ça. C'est exactement ça.
Quand tu commences le suivi d'un athlète, pro ou amateur d'ailleurs, Violette, quelle est la donnée de base que tu utilises ? C'est l'IMC ? C'est... Sur quoi tu vas te baser justement pour l'accompagner et aller chercher une optimisation ?
Souvent, j'aime bien demander un petit peu l'histoire du poids de la personne.
Ouais.
Quel poids elle a fait dans sa vie, à quelle période, quel poids elle a maintenu facilement, est-ce qu'il y a eu des évolutions avec la course à pied, d'essayer vraiment de comprendre l'athlète, comment il fonctionne, s'il vient parce qu'il a pris quelques kilos et dont il aimerait se délester, mais c'est des kilos qui dans sa tête lui appartiennent pas, des kilos superflus qu'il aurait pris en raison d'une blessure ou ce genre de choses, ou si c'est un poids qui n'a jamais été atteint, quelqu'un qui se met à une pratique un peu plus sérieuse, qui aimerait optimiser son poids mais sans trop savoir où est-ce qu'il va. Donc je me base à la fois sur des données un peu chiffrées, des calculs d'IMC, voire éventuellement des estimations du taux de masse grasse, et en même temps de l'histoire du coureur pour ne pas brûler les étapes non plus et pas aller trop vite.
L'IMC, c'est une donnée essentielle ? Tu peux rappeler comment on la calcule d'ailleurs, si on veut la calculer, ceux qui nous écoutent, s'ils veulent un peu savoir où ils en sont ?
C'est le poids divisé par la taille au carré.
Ouais. C'est fiable, ça ?
C'est pas très fiable parce que ça ne prend pas en compte la masse musculaire. Donc, on peut avoir des grosses variations. Mais moi, je m'en sers surtout pour savoir si un athlète descend pas trop bas. Parce que le critère de dénutrition, pour le coup, masse musculaire ou pas, quand on est trop bas, on est trop bas.
Le risque, il est là. Et ça, Johan, tu as dû croiser des athlètes dans ce cas-là tout au long de ta carrière, masculin ou féminin d'ailleurs. D'avoir l'obsession et la peur du poids superflu et de ce qui peut causer des troubles alimentaires. On en parlera avec Violette dans un instant. Mais ça, tu as vécu ça toute ta carrière, Johan.
Tu peux avoir des troubles alimentaires, une fatigue accrue, tu vois, quand tu es... Ouais. T'es vraiment en sous-poids, c'est-à-dire que t'es hyper faible, quoi. Tu peux pas encaisser les séances, t'as moins de force musculaire aussi, et souvent tu risques la fracture de fatigue, des choses comme ça. Moi, c'est souvent ce genre de pathologie que j'ai vu sur des athlètes un peu en sous-poids, que ce soit homme ou femme, c'est la fracture de fatigue qui arrive au bout d'un moment parce que le corps peut pas supporter la charge d'entraînement. Et ouais, effectivement, c'est très problématique. Et puis, c'est aussi problématique après dans la tête, parce que si on arrive à des problématiques comme l'anorexie ou des choses comme ça, effectivement, après, c'est très compliqué de s'en sortir.
Ça fait partie des gens que tu accompagnes ? Parce qu'on parle de ceux qui ont du poids à perdre, mais il y en a qui ont du poids à prendre aussi.
Aussi, ouais.
Et là aussi, les problématiques sont différentes. Est-ce que c'est plus dur, d'ailleurs, l'accompagnement de quelqu'un qui doit se défaire de ses troubles alimentaires ?
C'est beaucoup plus difficile.
Ouais. Parce qu'il y a tout un aspect psychologique, mental, se forcer à manger au départ, j'imagine.
Oui, alors ça peut aller dans les deux sens. On a aussi, on a de l'anorexie, donc des personnes qui cherchent toujours un poids plus bas, mais on a aussi des personnes qui sont plutôt dans un comportement boulimique, donc qui vont avoir des pulsions alimentaires, des compulsions, donc des prises alimentaires incontrôlées en grosse quantité et qui vont derrière avoir une compensation, soit par la restriction alimentaire, soit par d'autres techniques compensatoires ou par un excès de sport. Et donc dans les deux cas, il faut travailler sur le fait de retrouver des repas réguliers en portions raisonnables, travailler sur les peurs, la peur de reprendre du poids, la peur de reprendre trop de poids, la peur de certains aliments. Donc forcément, on va mêler beaucoup de psychologie au suivi nutritionnel et ça complique beaucoup les choses.
Ah ouais, c'est sûr.
La psychologie, c'est important.
Hein. Bah, oui.
Moi, j'ai vu des athlètes qui ne voulaient pas couper l'entraînement en période estivale parce qu'ils savaient qu'ils allaient prendre et que derrière, ça leur est trop dur de devoir après de nouveau se restreindre un peu pour perdre les 4-5 kilos qu'ils ont pris pendant les vacances. Donc, ils étaient tout le temps en train de s'entraîner, même pendant les périodes où normalement, c'était des coupures qui étaient programmées, par peur de ne pas pouvoir reperdre les kilos qu'ils allaient prendre. Et quand tu es dans ce cercle-là, je te dis, ça mène tout droit vers une fatigue physique et puis vers la blessure, quoi.
Tu te pèses tous les jours, Johan ?
Non, mais tu vois, quand je suis dans des périodes comme là, un peu au Kenya ou... Je me pesais une fois par semaine, quoi. Une fois par semaine, à la même heure. Il faut bien évidemment toujours la même balance, à la même heure, au même moment.
À jeun, non ? Souvent,
souvent c'est à jeun, ouais. C'est là où tu as les meilleures données. Mais je me pèse, même un peu plus, je dirais, une fois tous les 5 jours pour avoir vraiment un vrai suivi. Mais là, au Kenya, tu vois, ça serait plus dans le but de pas non plus trop perdre, tu vois.
Eh oui, bien sûr.
Faut pas, parce que là, c'est l'été ici, donc du coup, tu manges que des fruits, il y a aucun produit transformé. Tu te mets au soleil, je te jure, tu fonds comme une motte de beurre en plein soleil. Donc, tu sais, moi, dès que je suis au soleil, je m'affûte très vite.
Ouais.
Et donc là, l'idée, c'est de pas non plus trop perdre. On est quand même assez loin du marathon, il reste 2 mois, faut pas que j'atteigne mon pic de forme 2 mois avant l'objectif, ouais. C'est pas le but là.
Tu conseilles, Violette, de se peser quotidiennement ou non, c'est trop, ça dépend des personnes aussi, des profils?
Souvent c'est trop et surtout c'est anxiogène parce qu'on va avoir des petites variations de poids de toute façon tous les jours.
Ouais.
Donc forcément, quand on voit qu'entre un jour et le lendemain on a pris 300 grammes, tout de suite ça peut affoler alors que c'est très souvent des variations d'eau.
Ouais, c'est ça. C'est l'hydratation.
Exactement ce que j'allais dire. Parce que moi, tu vois, je suis pas dans le délire de poids et tout, mais je sais que, par exemple, je me dis, je vais me peser demain. Et ben, inconsciemment, tu bois peut-être un peu moins que ce que tu dois boire, ce que tu boirais si jamais tu. Et pourtant, tu vois, moi, je suis pas du tout dans une problématique liée au poids. Mais ça m'arrive de penser ça en me disant, ah non, bois moins comme ça demain, tu seras un peu plus léger. Alors, j'imagine que des athlètes qui ont cette problématique-là. C'est compliqué, ouais. Parce que c'est vrai que la variation de poids, c'est facile de perdre du poids. Tu bois pas à partir de 18h le soir, tu vas bien aux toilettes et tout, et après tu te pèses le lendemain matin, t'as déjà perdu 1 kilo.
Ouais, mais tu le perds à un moment donné, c'est toujours pareil.
Ah non, mais par contre, c'est pas du tout efficace sur le long terme.
Et ouais, c'est sûr. Le poids de forme, allons-y sur le poids de forme, Violette, parce que ça, c'est propre à chacun. On ne peut pas se comparer aux autres, même si, comme avec Yohan, on fait la même taille, on n'aura pas forcément le même poids de forme. Comment on le détermine et comment on se dit « je suis dans la bonne zone » parce que je pense que ce n'est pas un poids exact, tu vas nous le confirmer, mais comment savoir qu'on ne se trompe pas d'optimisation, qu'on n'est pas allé trop loin, mais qu'on est aussi dans un poids raisonnable compte tenu de notre morphologie?
Alors, plutôt que de se baser sur le poids en lui-même, finalement, on peut essayer de se baser sur le pourcentage de masse grasse, sachant qu'il y a toujours des variations individuelles sur ce qu'on peut maintenir en restant en bonne santé et que, évidemment, les athlètes professionnels auront toujours un pourcentage de masse grasse inférieur à celui des amateurs. Le volume aussi qu'on court dans la semaine aide plus facilement à le maintenir. Un athlète qui s'entraîne énormément va aussi manger beaucoup, apporter beaucoup de nutriments et avoir une dépense calorique qui fait que maintenir un poids plus haut peut être compliqué, comme le disait Yohan. Donc je préfère me baser sur une estimation déjà du taux de masse grasse et ensuite ça va être beaucoup au niveau du ressenti, un petit peu comme avec la charge d'entraînement, la fatigue, ce genre de choses. Plus on avance dans la pratique d'un sport, plus on apprend à se connaître. J'ai beaucoup de coureurs avec un niveau avancé qui savent quand ils sont un peu trop hauts, qui savent quand ils sont un peu trop bas. Et à ça, on va coupler avec d'autres indicateurs, par exemple la fréquence des blessures, la motivation à l'entraînement, l'énergie ressentie, les variations hormonales. Chez les femmes,
un bon signe annonciateur. Ouais.
Exactement. Ouais. D'avoir un cycle menstruel régulier, c'est un indicateur de bonne santé. Et à partir du moment où ça commence à se dérégler, on peut supposer déjà qu'au niveau alimentaire ou au niveau de la charge d'entraînement, il y a un problème.
Ce qui fait peur pour les hommes, Yohan, c'est que c'est forcément des trucs hyper négatifs. Quoi. Quand on est allé trop loin, on le paye tout de suite. Ça peut être de la blessure, de la tendinite, tout ça. Enfin, tout ce qui peut se déclencher malheureusement à cause d'une, entre guillemets, une sous-nutrition. Quoi.
Ouais, c'est ça, ça peut se déclencher par ces facteurs-là, mais c'est vrai que le ressenti de l'athlète, je pense qu'il est important dans le... on le sent quand on est en surpoids, mais on le sent aussi quand on est en sous-poids, c'est-à-dire que quand vous avez l'impression que les entraînements ils sont un peu trop rapprochés, que vous avez moins de force physique, que vous perdez un petit peu en vitesse, en puissance sur les entraînements... ça peut être lié justement à ces facteurs de perte de poids trop importante et du coup le fameux rapport poids-puissance hein, où on manque de watts un petit peu. Mais ça, il faut se connaître effectivement pour les coureurs débutants qui n'ont pas connu cette sensation, c'est plus compliqué à déterminer. Donc c'est vrai que connaître son poids idéal, c'est quand même super bien. Et son poids de forme et se dire voilà, après je m'y maintiens, C'est quand même un atout après dans son jeu pour l'entraînement. Ouais.
Parce qu'on peut se dire, là, il y a la prépa du Marathon de Paris, nous on encadre des athlètes qui sont dans ce cas, il y aura 66 000 participants, donc là il y a beaucoup de gens qui sont concernés. On peut se dire, je perds un peu de poids justement pour améliorer mon niveau et tout. Le ressenti est hyper important, et c'est ça le truc, Violette, c'est qu'en fait on peut se dire, ça va marcher sur le début, mais il y a un signe quand même qui est très important, c'est, comme le dit Johan, si on n'arrive pas à tenir un poids qu'on s'est fixé. Et là, ça veut dire qu'on n'est pas dans le juste, en fait.
C'est ça, si le maintien du poids implique une grosse restriction énergétique, bah, c'est de l'énergie qu'on a en moins sur les entraînements. Ouais. Et il y a un moment où la progression va forcément ralentir, voire s'arrêter. Donc, peu importe le poids qu'on essaye de...
Ça sert à rien de se dire, je fais 70 kilos, je vais en faire 68 parce que je serai plus performant. Si 68, on n'arrive pas à le tenir, c'est que c'est mauvais signe, quoi.
Exactement, que ça soit pour des raisons psychologiques ou physiologiques. Ouais. Parce que l'appétit, c'est aussi hyper individuel. Il y a des personnes qui ont besoin de manger plus parce qu'ils ont un appétit qui est plus développé. Donc si on est obligé d'être toute l'année dans des stratégies de restriction énergétique pour pas avoir faim mais pour pas manger trop, c'est pas gérable non plus.
Ouais, tu le payes forcément là aussi psychologiquement, à un moment tu peux plus tenir. Concrètement, comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir et te dit j'ai envie d'être accompagné? Déjà, tu accompagnes les gens sur quelle durée et quel est le processus que tu mets en place? Tu vas jusqu'à leur dire cette semaine faut que tu manges ça, si ça, telle quantité, ou ça va pas aussi loin?
Ça dépend.
Ça peut aussi loin alors.
Ça dépend. Oui, il y a des personnes qui parfois me demandent vraiment des exemples de menus ou ce genre de choses. Mais généralement, on commence par un bilan global. Donc, de la pratique, du niveau de pratique, du nombre d'entraînements par semaine, du poids, de la taille, de l'histoire, enfin voilà, tout ça. Ensuite, on fait un bilan alimentaire. Donc, on va explorer les habitudes alimentaires de la personne, ses repas, les collations, les grignotages, le ravitaillement.
Aïe, 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 Johan.
Ouais, le grignotage, aïe, aïe, aïe.
Là, c'est dur, ouais.
Et une fois qu'on a fait ça, on va essayer d'optimiser, donc soit dans le but d'une perte de poids, si c'est la demande. Et puis, parfois, il n'y a pas besoin de perdre du poids, mais le fait de réagencer autrement l'alimentation, ça va permettre un gain d'énergie et l'amélioration des performances.
Ouais, c'est ça. Forcément, c'est de l'ajustement. Comme ça, tu t'adaptes à ceux qui t'écoutent. Là, est-ce que c'est important, comme dans l'entraînement, d'avoir une progressivité? C'est-à-dire que tu vas accompagner quelqu'un, quelles que soient les problématiques. Quelle est la bonne durée, déjà, pour mettre en place un nouveau cycle, entre guillemets, une nouvelle façon de s'alimenter et de réguler comme ça un poids?
Ça dépend de l'ampleur du changement.
Ouais, ça dépend, ouais, c'est sûr.
Parfois, il y a juste besoin de remettre des petits repères de quantité parce qu'on a des sportifs qui ne mangent pas suffisamment sur les repas et qui vont avoir des fringales en dehors des repas, donc grignoter des choses qui ne sont pas forcément optimales, qui vont du coup avoir du mal à réguler leur poids, leur niveau d'énergie, leur performance, et juste leur redonner des repères, les aider à se recaler. Ça va suffire, on fait un bilan, une séance de suivi et puis... c'est parti. Ouais. Et puis, il y a d'autres sportifs chez qui il y a un petit peu tout à revoir. La nutrition du quotidien, la mise en place du ravitaillement, ce qu'on appelle le gut training aussi, pour s'entraîner à se ravitailler, à prendre suffisamment de gel.
Ouais.
Sur les courses de longue distance, on a vraiment une grosse problématique avec la nutrition d'avant-course, pendant la course. Ça nécessite de faire des tests, d'essayer sur des petites courses, de recommencer.
C'est indispensable, hein, c'est sûr.
Donc, par exemple, moi, sur le trail, j'ai des suivis qui peuvent être très longs. Parce que il faut faire beaucoup d'essais
et
la course à pied par exemple sur du 10 km souvent c'est très rapide, marathon ça va être des suivis un peu plus longs, c'est très variable et puis ça dépend vraiment où en est l'athlète.
Tu vois là Johan, t'es arrivé au Kenya, il y a 2 heures de décalage, t'es en saison complètement différente parce que c'est l'été au Kenya. Est-ce que tu adaptes ton ravitaillement dans les entraînements, par exemple? Parce que c'est important aussi, il fait chaud, il faut s'hydrater un peu plus,
c'est ça.
Tu consommes plus de gel à l'entraînement par exemple?
Ouais, bah surtout l'hydratation. Le plus important là ici, c'est l'hydratation parce qu'il fait vraiment chaud et que, en plus, la difficulté du Kenya là où je suis, c'est que c'est à 2400 mètres d'altitude, donc il fait chaud, mais tu le sens pas et tu sens pas que tu te déshydrates parce qu'il y a toujours un fond d'air un peu frais, un peu de vent, donc tu le sens pas non plus. C'est pas hyper lourd comme si tu étais en bord de mer et qu'il ferait 35 degrés. Et donc il faut faire attention à la déshydratation. Et après, effectivement, bah là sur les sorties. Tout à l'heure, je parlais de perte de poids liée au fait que je sois au Kenya, mais parce que c'est vrai que dans l'alimentation, je ne retrouve pas tout à fait les mêmes choses que ce que j'ai l'habitude de manger en Europe. Tu vois, il y a peut-être une part de féculents en moins que moi, ce que j'ai l'habitude de manger. Je mange beaucoup de féculents quand même quand je suis en France. Et effectivement, ici, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. On n'a pas de viande rouge aussi, on a moins de protéines. Mmh. Donc là, pour le coup, il faut être hyper attentif à ce que tu vas supplémenter dans tes entraînements et en dehors de l'alimentation. Donc effectivement, bah, peut-être que je consomme un petit peu plus de gel énergétique, des boissons un petit peu plus protéinées pour compenser justement ce manque de féculents dans les repas et ce manque de protéines dans les repas. Et c'est comme ça que je fais. Mais ouais, il faut faire très attention à ça. Hein. La part de glucides et de protéines dans l'entraînement quand on est en préparation marathon, c'est primordial. Il ne faut pas se restreindre parce que je suis en préparation marathon. Si on estime qu'on a 1 ou 2 kilos à perdre, mais ils vont se perdre naturellement. Il faut faire attention à ça, quoi. C'est-à-dire que quand on court beaucoup, bah, il faut aussi recharger en carburant la machine.
Il est bon le coach, hein. Oui, forcément, ça c'est l'expérience qui parle. Quelles sont les problématiques les plus communes que tu vois dans les sportifs que tu accompagnes? C'est ça, c'est le grignotage, c'est trop de sucre, c'est quoi?
Chez les coureurs, ouais, ça va être une difficulté à gérer finalement l'alimentation du quotidien et à gérer le ravitaillement. C'est les deux principales problématiques avec la question des troubles digestifs et de la digestion. Qu'est-ce qu'on mange avant d'aller courir? Qu'est-ce qu'on mange après? Toutes ces problématiques-là.
Bien respecter le cycle de digestion avant d'aller s'entraîner, j'imagine aussi.
Exactement.
Allons-y sur des conseils purs et durs, parce qu'il faut savoir bien s'alimenter déjà pour performer. C'est ça le plus important. Est-ce qu'il faut manger à satiété déjà? Est-ce qu'à chaque fois qu'on sort de table, il faut se dire bah, « ça y est, j'ai plus faim », est-ce qu'il faut se limiter? Comment ça se passe? Comment tu vois ça, toi?
Ça dépend de la perception qu'on a de la satiété. Ouais. Être à satiété, ce n'est pas forcément se sentir plein, repu, se dire « ok, là, je suis bien ». La satiété, c'est le fait de ne plus avoir faim. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir mangé suffisamment pour ne pas sortir de table en ayant faim et en ayant l'impression de s'être privé. Mais il faut pouvoir retourner vaquer à ses activités.
Ouais. Faut pas s'endormir, quoi. C'est pas la sieste imposée parce qu'on a trop mangé, quoi.
Exactement.
Ouais. Ouais. Ça, c'est à Noël, ça.
C'est ça, ouais,
exactement. C'est ça.
Donc, c'est l'essentiel. Après, sur le bol alimentaire, comme on dit régulièrement, ça, c'est un bon truc de nutritionniste, le bol alimentaire, hein, forcément. Découper l'assiette en 3, ça, c'est toujours vrai. Un peu de protéines, un peu de féculents, un peu de légumes.
C'est pas forcément vrai parce que c'est pas toujours proportionnel.
Okay.
Par exemple, la quantité de protéines, elle n'est pas forcément proportionnelle à l'apport énergétique. Ouais. On va, par exemple, mettre des objectifs par rapport au poids de corps ou à la masse musculaire, si on veut vraiment entrer dans le précis. Et chez des sportifs qui s'entraînent beaucoup, il va y avoir une grosse portion de féculents. Et donc, la portion de féculents va dépasser la portion de légumes, par exemple.
Ah, OK, d'accord. Mm. Donc, plus de féculents que de légumes. Johan est dans le vrai, alors. Il a raison de faire plus de riz et plus de pâtes que de haricots verts, quoi.
Exactement. Sachant que les fibres, effectivement, c'est hyper important.
Ouf. Ouais.
Mais si on en mange trop, on risque d'avoir des troubles digestifs aussi quand on court, donc ça sert à rien de faire toujours plus.
D'accord. C'est quoi le petit déj idéal du coureur
alors ça dépend quand le coureur court. Oui, est-ce qu'il va courir juste après son petit déj ou est-ce qu'il court plutôt en fin de journée?
Ah, il vaut mieux éviter déjà il faut laisser au moins 3 heures entre le petit déjeuner et le fait d'aller courir, c'est sûr.
Ça dépend ce qu'il y a dans le petit déj, ça dépend en quelle quantité on mange le matin. Si c'est un petit déjeuner léger avec plutôt des glucides assez faciles à digérer, un petit peu de protéines, pas trop de fibres, en fait on peut aller courir une heure après sans trop de soucis. Mm-hmm. Si par contre on est sur un petit déjeuner copieux, par exemple petit déjeuner salé avec du pain, des œufs, ce genre de choses, effectivement il faut attendre 3 heures avant d'aller courir parce que là c'est des aliments qui vont être beaucoup plus longs à digérer.
Il y a une autre règle de base, et on la voit souvent passer dans les études ou dans les sujets concernés, enfin, qui concernent l'alimentation, c'est pour optimiser la récupération après un gros entraînement, là aussi, c'est ce qu'il faut respecter dans le repas d'après. C'est-à-dire que le repas d'après, il est fondamental pour encaisser la charge d'entraînement et remettre le corps à niveau.
Exactement. Dans l'idéal, on va vraiment apporter une bonne recharge glucidique dans les 2 heures qui suivent l'effort, surtout chez les athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour. C'est un peu moins vrai quand on s'entraîne 3 fois par semaine.
Ouais.
Mais plus on s'entraîne, plus il faut accélérer la récupération. Donc, consommer des glucides et des protéines après l'effort, c'est vraiment le plus important.
Ouais, dans les 2 heures, alors?
Dans les 2 heures, idéalement, oui.
Parce que souvent, toi qui es nutritionniste, tu dois le voir, mais... Johan, d'ailleurs, tu vas nous donner ton exemple, mais après un gros entraînement, tu n'as pas forcément d'appétit, quoi. C'est ça la problématique aussi, Violette.
Exactement. Dans ces cas-là, moi, je conseille plutôt de faire une petite collation juste après l'entraînement avec, par exemple, des glucides rapides qui vont permettre de se resucrer un petit peu et puis d'attendre que l'appétit revienne tranquillement une heure et demie après pour faire un repas complet ou quelque chose d'un peu plus copieux.
Ça me rappelle Font-Romeu, Johan, avec ta pomme pote dans le coffre. Voilà.
Et oui, c'est ma pomme pote et mes petits schtroumpfs Haribo.
Ah, mais là, ça, c'est pas
j'avais
bon.
Ah ben là, c'est des sucres rapides, là. C'est des sucres très rapides.
Ultra rapides, exactement. tu sais, RMC, on reçoit beaucoup de sportifs différents, notamment des sports olympiques. Moi, j'ai beaucoup discuté, par exemple, avec Maxime Potti, qui est escrimeur et qui a un rapport particulier au sucre. Pour te donner un exemple, il refuse qu'on lui donne comme ça des bonbons. Autant Yoann Durand, lui, il dit OK. Hein. Il dit OK à tout, moins de bonbons et tout. Mais par exemple, Maxime, lui, qui est donc escrimeur professionnel, il refuse de manger du sucre comme ça parce qu'il dit, en fait, ça va me faire un pic glycémique. Et après, ça va me rendre KO pour tout le reste de la journée. Quoi. Il retarde au maximum la prise de sucre. Quel est l'impact du sucre sur l'organisme quand il est consommé comme ça, surtout quand c'est du sucre additif comme ça et des produits chimiquement transformés. C'est ce qu'il faut à tout prix éviter quand on fait du sport régulièrement, Violette ?
Pas forcément. Aujourd'hui, on n'a pas d'études très, très sérieuses sur tout ce qui va être effet négatif en fait, de la prise de sucre isolée chez l'individu en bonne santé. Mm-hmm. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les sportifs, par leur composition corporelle et par les adaptations de l'entraînement, ont une très bonne capacité à gérer ces sucres-là. Donc finalement, à partir du moment où c'est plutôt proche de la séance, soit avant, soit après, donc ça vient répondre à un besoin physiologique, on n'a pas spécialement de soucis. Après, c'est toujours aussi une question de quantité. Ouais. Si on mange deux schtroumpfs...
Il s'envoie un paquet après une séance en hypoxie.
Non, j'en mange que 3-4.
Non, c'est vrai, il en mange 3-4.
Maximum 4.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, donc si on est sur ce type de dosage, l'insuline, elle ne va pas exploser, la glycémie, elle ne va pas exploser non plus, on ne va pas avoir un gros crash derrière. Donc normalement, le corps gère très bien ce type de variation. Après, si on a au ressenti l'impression qu'on ne se sent pas bien après avoir consommé des quantités de sucre de façon isolée dans la journée, dans ces cas-là, c'est à chaque athlète de se dire « moi, je ne me sens pas bien quand je consomme du sucre, donc je préfère éviter ou le prendre plus tard dans ma journée.
Ouais. »
Et puis, chez l'athlète, comme Johan, qui le vit très bien, il a ce besoin énergétique et ce besoin glucidique pour être en forme et puis pour le plaisir aussi, il n'y a pas de souci particulier.
Est-ce que le grignotage, c'est l'obstacle numéro un des nutritionnistes ? Est-ce que ça, c'est le truc à éviter impérativement ou ça peut être nécessaire ? Alors, vous parlez de collation souvent, c'est différent. Ça n'a pas la même connotation d'ailleurs, ouais, c'est vrai.
Ah oui.
La différence.
C'est ce qu'il y a dedans, en fait. C'est ça la différence.
Ça dépend, parce que le grignotage, c'est plus une prise alimentaire, non maîtrisée, non contrôlée, sur une durée qui va souvent être un petit peu plus importante, c'est le pop-corn au cinéma.
Ouais.
Alors que la collation, c'est je choisis ce que je mange, mais je me fais un petit repas, en fait. Donc c'est complètement différent de prendre un goûter, si on ne veut pas dire collation, que de grignoter dans l'après-midi, parce que dans l'open space, il y a des biscuits, et puis qu'on va nous proposer une viennoiserie.
Ah, Geoffrey Charpie, notre producteur, est parti, donc ça, il y a moins de problèmes.
Ouais.
Mais,
c'est bon.
Ouais. Mais ça, c'était un piège, ouais, c'est sûr.
Moins
les
de tentation.
Les bonbons qui tournaient, il y a moins de tentation, c'est sûr.
C'est ça. Alors que manger en dehors des repas, se faire une prise alimentaire supplémentaire, ça peut être nécessaire.
Ouais, donc tu peux le conseiller d'ailleurs pour ceux qui s'entraînent régulièrement à préparer un marathon par exemple. Ça peut être la petite collation d'après-midi, c'est pas du tout un problème quoi.
Surtout chez les sportifs qui s'entraînent vers 18h, 19h, souvent le déjeuner est loin et puis il faut pas non plus se jeter sur le dîner parce que les sportifs qui rentrent et qui ont envie de casser le frigo tellement ils ont faim ou qui ont des coups de barre pendant la séance, c'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux effectivement manger une barre de céréales, une banane, ou se faire un vrai presque un petit repas dans l'après-midi si c'est nécessaire.
Johan, tu le fais toi d'ailleurs, la collation de l'après-midi ?
Tout dépend à quelle heure je m'entraîne.
Ouais.
Si je m'entraîne effectivement à 18h et que j'ai mangé à midi et demi et que j'ai une séance, je vais certainement faire une collation plus ou moins légère suivant le contenu de la séance. Si c'est juste un footing, dans ce cas-là, je m'en fiche et je peux manger pas mal. Si c'est une séance de fractionné, j'évite de trop manger. Ça va être plutôt des fruits secs, des trucs comme ça, un peu de pain d'épices ou une pomme pote, trucs comme ça.
Ça fait envie.
Mais,
hein.
Non, mais c'est la collation, collation classique ou après une barre. Les barres, souvent je prends des barres pas protéinées, mais des barres d'effort. Aussi, ça peut m'arriver. Mais ça dépend de à quel horaire est l'entraînement. C'est sûr que là, par exemple, au Kenya, ici, la difficulté, c'est qu'on a la collation à 16h et l'entraînement, il est à 17h. Donc autant te dire que si tu t'envoies du pain au Nutella ou tartiné de je ne sais quoi,
tu vas souffrir.
Au bout de 5 minutes du footing, t'es carbo. Donc,
tu fais l'erreur une fois, pas deux, quoi.
Ah, c'est exactement ça. J'ai fait l'erreur une ou deux fois. Ouais. Puis quand t'as lâché 2-3 rototos pendant le footing, tu te dis, bon, bah, ça c'est terminé.
C'est sûr.
Tu fais plus l'erreur, ouais.
Non, mais c'est sûr. On a parlé de poids de forme, hein, l'envie de perdre le poids superflu quand ça reste dans la limite du raisonnable. La course à jeun, ça aide justement à perdre rapidement du poids comme ça. C'est ce que tu conseilles toi aussi, ou il y a des risques aussi là de courir à jeun régulièrement?
Il y a quand même pas mal de risques. Déjà, les séances sont souvent moins qualitatives, surtout si c'est du fractionné. C'est pas une très bonne idée. On va vraiment manquer d'énergie. On va abîmer un petit peu plus sa masse musculaire, donc on va augmenter le besoin de récupération derrière. Mm-hmm. Donc les séances sont moins productives, la récupération est plus longue, et courir à jeun ne garantit pas d'être en déficit calorique sur la journée. Ce qui compte pour perdre du poids, c'est finalement de consommer moins de calories que ce qu'on dépense à l'échelle de la journée, voire à l'échelle de la semaine. Donc même si je cours le matin à jeun, si je vais compenser trop la dépense énergétique et qu'à la fin de la journée, je ne suis pas en déficit calorique, je ne perds pas de poids. Donc c'est pas forcément une façon de perdre du poids qui marche chez tout le monde.
Okay.
Donc c'est pas forcément nécessaire.
Comme on parle de course à jeun,
il faut pas manger trop le petit déj, quoi. C'est-à-dire que derrière, il faut pas, parce que t'as couru à jeun, dire vas-y, j'éclate le petit déj.
Je me donne bonne conscience, je suis parti courir à jeun à 50 minutes. En revanche, après, je me prends un petit déj. Sacré brunch, quoi. Non,
tonnerre. Et là, c'est mort, ça sert à rien.
Ouais, là, il y a pas d'intérêt forcément. La période qui va s'ouvrir, ça va y avoir le Ramadan pour tous ceux qui sont musulmans et qui pratiquent le jeûne comme ça sur un mois. Ça va arriver à la fin du mois de février. Toi, tu dois accompagner, d'ailleurs, on en a parlé avant, mais certains athlètes musulmans, donc ça les concerne aussi. Quelles sont les bonnes pratiques à respecter? On va y consacrer un épisode, d'ailleurs, à la course à jeun et à cette période qui sera si particulière. Est-ce qu'on peut conserver de l'intensité, du volume? Est-ce qu'il faut s'adapter? Comment tu vois ça, toi?
Il y a forcément besoin de s'adapter. Après, ça dépend, comme on disait tout à l'heure, la fourchette dans laquelle on a le droit de manger sur cette période-là.
Ouais.
Idéalement, on va essayer d'optimiser de façon à ce que les entraînements soient effectués à proximité d'une prise alimentaire, soit d'avoir pu manger avant, soit de pouvoir manger après.
Donc, entre guillemets, s'entraîner le plus tard possible, quoi.
Ouais.
Voilà, avant le coucher du soleil et de pouvoir, comme ça, se réalimenter directement après, quoi.
C'est ça.
OK. Parce que l'idée reçue, ça pourrait être de se dire, il y a le petit déj du matin et puis ensuite 3 heures après aller faire sa sortie. Mais non, ça c'est plutôt à éviter parce qu'ensuite
la prise
alimentaire sera beaucoup plus loin.
Puis le problème, c'est la déshydratation aussi.
La déshydratation.
Alors justement, l'hydratation, on en a peu parlé, mais là on a parlé de mauvaises choses à éviter, le sucre, etc. L'hydratation, ça aide quand même à éliminer tout ça. C'est-à-dire que plus on s'hydrate, plus on fait passer les mauvaises choses. Ou ça, c'est une idée reçue complètement débile et faut pas voir les choses comme ça.
Alors, ça va pas jouer nécessairement sur le poids.
Ouais.
Après, j'ai déjà vu le cas plusieurs fois de personnes qui ont tendance à confondre la faim et la soif. D'avoir du mal à différencier, notamment chez les personnes qui ont des troubles alimentaires, de plus savoir si on a faim, si on a soif. Donc bien s'hydrater, ça permet aussi de gérer un petit peu la prise alimentaire, mais ça n'a pas d'impact direct. Boire pour perdre du poids, ça n'a pas de sens.
Oui, parce qu'on peut se dire je coupe la faim avec que du thé, par exemple. Je bois que du thé et ça va me faire maigrir, quoi. Donc,
Non, parce qu'en fait, quand on boit, on va remplir l'estomac, donc ça va couper la faim pendant 5 minutes. Et puis une fois que la vidange gastrique elle est faite, la faim va revenir.
Ah ouais, donc c'est fausse bonne idée, ça aussi.
Exactement.
Ah ouais, non, mais c'est intéressant de voir ça. D'ailleurs, en termes d'hydratation, Johan, tu sais à peu près ce que tu bois sur une journée? C'est fluctuant, ça dépend aussi des conditions d'entraînement, des conditions météo, ou tu as toujours une base comme ça qui est la même?
Non, j'ai une base. Alors après, entre l'hiver et l'été, c'est quand même différent, mais j'essaye de... Enfin, surtout quand j'ai soif, c'est que déjà, tu es déshydraté. Donc, dès que je m'aperçois que j'ai soif, je me dis voilà, il faut que je fasse le taf pendant les prochaines heures, que je reboive bien, parce que c'est que quelque part quand t'as la sensation de soif, c'est déjà un peu trop tard. Ouais. Donc non, là-dessus moi je suis quand même assez ça fait 15 ans que je cours et j'ai tout de suite été bien briefé par rapport à l'hydratation sur les bienfaits du truc. Donc j'ai pas ma gourde tout le temps avec moi, mais elle est très régulièrement à mes côtés, donc je bois beaucoup tout au long de la journée. Ça, c'est quand même mieux que boire 1 litre en rentrant de l'entraînement complètement déshydraté. Mais après, il y a quelque chose que je faisais et que je fais en prépa marathon, c'est-à-dire que pour savoir Je me pèse, et ça on le fait aussi, tu as dû le voir quand on était en hypoxie à 5000 mètres. Donc je me pèse avant ma séance, je me pèse après, je regarde combien j'ai bu sur mon entraînement et je fais la soustraction. Et là, je sais combien je dois boire dans les 2-3 prochaines heures après l'effort. C'est-à-dire que si j'ai perdu 1 kilo entre le début de mon entraînement, la fin de mon entraînement et que j'ai bu 500 millilitres, ça veut dire qu'il va falloir que je remette 500 millilitres dans le moteur, grosso modo. Donc ça, c'est important. Et ça, tout le monde peut le faire. Hein.
L'hypoxie, c'est particulier parce que c'est la raréfaction de l'oxygène qui est provoquée dans une salle. Hein, mais forcément, ça assèche encore plus d'être aussi haut parce que tu te mets à hauteur du Mont Blanc à peu près. Donc, quand tu fais
t'as pas du tout soif. Ouais.
C'est quoi les règles de base d'ailleurs de l'hydratation? C'est ce qu'a dit Johan déjà, boire un peu toute la journée. Est-ce qu'il y a des quantités d'eau à boire sur une journée d'ailleurs? C'est quoi qu'est-ce qui est recommandé?
Le besoin hydrique, il est très difficile à estimer. À l'école, on a pas mal de méthodes. Parfois, on va nous recommander par rapport à l'apport énergétique. Donc, en fait, un certain nombre de millilitres par calorie ingérée, mais qui vont être répartis entre les aliments. Parce que forcément, si on mange de la soupe et si on mange quelque chose de sec, c'est pas pareil. Bon, je trouve que c'est finalement assez compliqué. La double pesée chez les sportifs, ça permet déjà d'avoir un état des lieux de ce qui est dépensé par rapport à la séance. Et puis après, la couleur des urines, ça reste quand même un indicateur qui est hyper simple à mettre en place et que tout le monde peut utiliser et on peut adapter en fonction, parce que entre l'hiver, l'été, la température, la séance qu'on a faite, qu'on a mangé, il y a trop de variables pour qu'on puisse conseiller 1,5 ou 2 litres.
Et puis ça, c'est facile à voir. Hein. Si c'est trop foncé, il faut se réhydrater.
Exactement.
Et l'inverse, si jamais c'est trop clair, aussi, il faut peut-être freiner un peu sur la bouteille d'eau et la gourde, mon petit Yodu. C'est ça, c'est ça l'idée.
Et quand c'est vert, il y a trop de Jet 27.
C'est ça, certainement. Est-ce qu'on peut faire un peu de concret? Je ne sais pas, le menu idéal que tu conseilles à un sportif qui fait de la course à pied régulière, qu'est-ce qu'il faut consommer en priorité, quelle dose, quelle fréquence aussi privilégier, je sais pas, les viandes blanches, quels sont les bons conseils qu'on peut donner?
On va avoir de toute façon les recommandations qui sont les recommandations pour toute la population en termes de charcuterie, de viande rouge. On a certaines.
Ça, c'est à fond, il faut en manger plein. Hein. Non, je peux
pas. Petit délai d'attente. Oui, par exemple, la charcuterie maintenant, c'est 120 grammes par semaine. Ouais. La viande rouge, c'est 450. Donc, il y a quand même des limites. Donc, on va se dire, on va plutôt favoriser quand même la consommation de viande blanche, le poisson blanc, du poisson gras une fois par semaine pour apporter des oméga-3, des féculents à tous les repas.
Tous les repas, ouais.
Tous les repas, exactement. Surtout chez les sportifs, c'est des glucides qui sont de qualité, qui permettent d'éviter les fringales. Que ça soit le midi pour tenir sa journée, tenir ses entraînements, que ça soit le soir pour avoir un sommeil réparateur et récupérateur et pas se réveiller à 3h du matin parce qu'on a faim. Manger des glucides et des féculents tous les repas, c'est hyper important. Sur les légumes, on va être à 5 portions par jour. Donc une portion, c'est quand même au moins 100 grammes. Et puis les protéines, après, c'est vrai que ça dépend du régime alimentaire de l'athlète, parce que chez les gens qui mangent de la viande, ça va être une à deux fois par jour en fonction des besoins. Il y a des personnes qui consomment beaucoup de produits laitiers qui vont apporter des protéines. Chez les personnes qui sont végétariennes, on va essayer d'augmenter un petit peu les produits laitiers. Normalement, c'est plutôt deux par jour les produits laitiers, mais on peut adapter aussi en fonction du besoin en protéines. Et puis voilà, donc les recommandations, c'est vraiment d'avoir un repas structuré type féculents, légumes, protéines, un laitage, un fruit, une collation avec un laitage ou un produit céréalier, un fruit. On va un peu jongler avec ces catégories d'aliments à chaque repas pour avoir une structure assez simple finalement.
Est-ce que la variété est importante ou c'est pas si grave si on mange souvent la même chose?
C'est pas si grave si on mange souvent la même chose, tant que globalement il y a tout dans l'alimentation.
Oui. Si c'est équilibré et qu'il y a un peu de tout, c'est pas un drame quoi.
Exactement. Ouais. On peut manger du riz 5 fois dans la semaine, on n'est pas du tout obligé. Parfois j'ai des sportifs aussi qui me disent je mange beaucoup de pâtes. À un moment, les féculents, il n'y en a pas non plus 400 000. On n'est pas obligé de chercher absolument à se faire un jour boulgour, un jour quinoa, jour pâte. On peut manger des pâtes tous les jours.
D'accord. Ça va en rassurer plus d'un. Johan, t'as des habitudes comme ça? Au final, est-ce que tu manges un peu toutes les semaines la même chose?
J'ai quand même des plats qui se retrouvent assez régulièrement. C'est vrai que moi, les pâtes... c'est 80% de mes féculents. De temps en temps, je mange du riz, de temps en temps, un peu de blé, de temps en temps, des trucs comme ça. Mais effectivement, c'est beaucoup de pâtes parce que c'est plus simple à cuisiner et que je trouve ça meilleur au goût. Et après, ouais, c'est non, mais mes repas, c'est vrai que mes repas se ressemblent. Après, bah, quand tu es en stage ou autre, bah, des fois, tu es dépendant de là où tu es, des cuistots et tout. Et là, c'est pas toi qui choisis. Mais à la maison, ouais, c'est tout le temps la même chose. Ouais.
On a beaucoup parlé des gens qui voulaient perdre du poids. Parlons aussi des troubles alimentaires, parce que peut-être que des personnes qui nous écoutent vont se reconnaître. Violette, quels sont les conseils? Alors déjà, certes, quand c'est un état critique, il faut consulter, parce que là, il faut se faire aider. En revanche, quand ça concerne des personnes qui ont pas non plus, pour qui ce n'est pas non plus un énorme problème, mais qui ont constaté un trouble alimentaire, quelles sont les bonnes méthodes à mettre en place justement pour régler ce souci?
Très souvent, la problématique, c'est justement le grignotage entre les repas, l'impression d'être addict au sucre ou ce genre de choses. Et ça traduit souvent des apports insuffisants sur les repas. À partir du moment où on a des repas structurés en bonne quantité, même si ça peut faire peur de manger beaucoup de féculents, déjà, on va recaler un cycle et un bon rythme circadien. On va éviter les fringales. On va du coup éviter ces envies de sucrer qui souvent correspondent en fait à des carences. Donc de manger suffisamment à chaque repas, c'est déjà un bon conseil quand on a l'impression qu'on est un peu perdu. Et il vaut mieux même manger un petit peu trop de féculents que d'avoir des grosses fringales dans l'après-midi.
Ça peut être déjà une façon de régler les petits problèmes. Quoi. Voilà, diminuer la faim en augmentant l'assiette matin, midi ou soir. Quoi.
Exactement. Le fait d'avoir faim, ça nous rend beaucoup plus vulnérables à tout ce qui va être alimentation émotionnelle, envie de sucrer, tentation. Quand voilà, y a de la nourriture à disposition, quand elle est devant, si on n'a pas faim, on va forcément être moins tenté que si on a déjà faim parce qu'on n'a pas mangé suffisamment. Donc ça peut être un premier point. Après, évidemment, dédiaboliser tous ces aliments sucrés qui sont évidemment à ne pas consommer en excès, mais qu'on peut s'accorder. Et puis surtout, quand on fait du sport, on a une dépense énergétique conséquente. Donc, ce n'est pas un souci de les intégrer au quotidien. Mais très souvent, quand j'ai des athlètes qui sont un petit peu perdus, rien que le fait de leur redonner une structure alimentaire avec des repas qui soient suffisants, ça soulage 80% des problèmes.
Tu dois recevoir des coups de fil. Est-ce que ça, je peux? Est-ce que ça... des photos, des trucs, ça, j'ai le droit? J'ai pas le droit, tout ça, ouais, c'est sûr.
Et les gnocchis, j'en mange combien?
Faut les compter, t'imagines. Ouais, c'est terrible. Voilà. Ou alors le grammage, parce que c'est, il y a aussi certains qui peuvent être à ce point-là de précision, qui vont peser comme ça le nombre de, enfin le poids de pâtes qu'ils peuvent prendre, etc. Là, ça sert à rien d'aller à ce niveau-là, on est d'accord.
Après, je le conseille quand même quand je donne des repères de quantité pour les repas.
Ah, quand même.
Je conseille quand même de peser une ou deux fois. Et de se rendre compte.
Et de voir ce que ça donne, quoi.
Exactement, je dis à l'athlète, ok, toi, si on fait une simulation un petit peu d'une journée type, t'as besoin de telle quantité à chaque repas, essaye de voir si tu manges assez, si tu manges trop, et du coup, d'où vient la problématique. Est-ce que tu manges pas assez, c'est pour ça que tu grignotes? Est-ce qu'en fait, tu manges trop, c'est pour ça que t'as du mal à perdre du poids? Ça donne un repère, mais après, tous les jours, non, évidemment.
Est-ce que, d'ailleurs, c'est une des dernières questions, mais est-ce que la prise de poids, elle est inexorable avec l'âge? Est-ce que forcément, vu qu'on vieillit tous, on va finir par prendre du poids ou pas forcément?
Pas forcément, ça dépend si on arrive.
Tu cherches des excuses.
Non, même pas en plus. non, mais c'est vrai que. C'est... Moi, j'ai lu ça sur certaines études, ils disaient qu'on prenait en moyenne 1 kilo tous les 10 ans. Mais est-ce que c'est vrai ça?
C'est
même si on a une pratique régulière du sport. Non,
c'est pas forcément vrai. Très souvent, il y a aussi une diminution de l'activité physique avec l'âge. Du coup, diminution de l'activité physique, diminution de la masse musculaire. Alors qu'au contraire, sur des athlètes avec un âge un petit peu avancé, avec les années d'entraînement, ils ont un profil qui est plutôt sec. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de règle.
Est-ce qu'une perte de poids sèche, c'est signe de mauvaise santé? Ça annonce jamais rien de bon. Tu vois ce que je veux dire? Si tu ne fais pas exprès de perdre du poids et que tu perds subitement beaucoup de poids comme ça en peu de temps.
Alors, il faut se poser des questions. Il faut effectivement vérifier qu'il n'y a pas une cause inflammatoire ou une pathologie ou quelque chose comme ça, qu'il n'y a pas eu de gros changements alimentaires. Donc, il faut effectivement regarder si c'est trop rapide et sans faire exprès. Ouais. C'est qu'il y a quand même eu un changement. Ça ne se fait pas tout seul.
Ok, il se passe quelque chose. Quoi. Ouais. Est-ce que Yoann Durand fera 60 kilos toute sa vie?
C'est ça la question.
Ouais, c'est ça. Ou alors quand il se coupera les cheveux, il va forcément perdre encore un peu de poids. Non, mais c'est sûr. Bah, Johan, on verra comment ça évolue pour toi en fonction de ta pratique sportive. Mais ça fait 20 ans que tu fais le même poids, quoi, en gros.
Ah, ça fait. Non, mais je te jure. Bah, alors j'ai pris un peu parce que avant j'étais à peine moins de 60 kilos. Mais là, je suis à 62, mais quand j'ai été blessé au tendon d'Achille, que je n'ai pas fait de sport pendant quasiment 4 à 5 mois, tu vois, j'étais monté à 65, je n'ai jamais fait plus de 65 de toute ma vie. Et donc, pour te donner un ordre d'idée, ce matin, on courait là au Kenya avec trois coureurs français qui sont ici, qui viennent des montagnes, et c'est des mecs ultra charpentés. Ils font 80-90 kilos, ils sont trois frères, et les trois, c'est de famille, tu vois, c'est des armoires à glace, tu vois. Et on courait avec un athlète kényan qui, lui, fait 52 kilos. Il doit faire 1m65, il fait 52 kilos. Et ça, le mec de 85 kilos, il aura beau s'entraîner ou à faire ce qu'il veut, c'est sa morphologie, il a des cannes de mammouth. Et le Kenyan, lui, il est tout maigre. Enfin, c'est
génétique aussi, bien sûr.
Le Kenyan, c'est génétique. Voilà, il a plus de 40 ans. Il court quasiment plus. Mais il fait 52 kilos. Et ça, effectivement, c'est une part de génétique. Et donc, moi, je pense que de mon côté, c'est vrai que la génétique, j'ai de la chance vis-à-vis de ça. Je ferai jamais 80-90 kilos. Hein.
C'est pour ça, Violette, que le message global, c'est qu'il faut s'accepter comme on est, en fait. Il ne faut pas du tout chercher à aller perdre du poids comme ça, à vouloir ressembler à son pote qui fait 5 ou 10 kilos de moins. Il faut trouver la bonne formule pour soi-même, quoi.
Exactement. Ce n'est pas forcément qu'il ne faut jamais chercher à perdre du poids, parce que parfois, on peut y trouver des bénéfices, c'est sûr. Mais en tout cas, la comparaison ne sert pas à grand-chose. Il faut se comparer qu'à soi-même et surtout veiller à se sentir bien dans son corps.
Johan, tu es en camp d'entraînement. Tu es au Ronix Athletic Center là, pour le début du stage au Kenya. Comment ça se passe, les repas, d'ailleurs? C'est forcément repas collectif? C'est un buffet? Comment c'est organisé?
Non, c'est repas collectif et c'est pas un buffet, donc c'est-à-dire qu'on te sert une assiette et voilà, t'as pas le choix, c'est-à-dire que si tu peux pas dire aujourd'hui je veux manger des pâtes, si aujourd'hui riz avec du poisson, t'es obligé de manger. Alors après, il y a du troc qui se fait comme au collège, c'est-à-dire que je t'échange ton M contre un bout de pâte ou truc. Et après, effectivement, comme c'est quand même un centre de sportif qui a du rab, c'est-à-dire que si tu as besoin plus de féculents, il y a des féculents qui sont mis à dispo en plus. Mais on ne choisit pas le choix des menus. À l'inverse, où quand je suis à Font-Romeu au camp Azix, là, c'est moi qui me fais à manger.
Oui,
et là, j'ai l'autonomie de savoir... ce que je vais manger, à quelle heure je vais manger. Donc c'est là toute la différence. Mais l'important, c'est de bien connaître sa dose de féculents, comme on disait tout à l'heure, et surtout de suffisamment en mettre, parce que là, on est en stage d'entraînement, donc tu t'entraînes deux fois par jour, tu manges des produits qui sont différents, qui ne sont pas transformés comme en Europe, tu vois, ce n'est pas des produits surgelés, transformés, ultra sucrés. Donc tu as un appétit qui est différent, ouais.
Dis-nous la vérité, tu as emmené du grignotage ?
J'ai une barre Lyon avec moi qui est avec moi pendant 3 semaines et je me suis promis de pas y toucher. Et je l'ai dans mon sac et pour l'instant je l'ai pas touché. C'est mon défi de pas la manger.
Ça fait peur ce qu'il nous raconte quand même. Bam, on te sert à l'assiette, Violette. ton côté nutritionniste, ça doit pas te plaire ça, parce que tu choisis pas trop. Bim, allez tiens, c'est ton assiette. Si t'as faim, tu troques le nez d'à côté.
Après voilà, c'est sympa, c'est difficile, mais sinon après tout est étudié pour qu'il y ait suffisamment de parts de protéines. Ouais. De glucides et de fruits, de légumes. On a l'avantage d'être au Kenya, donc les fruits, je peux te dire, c'est un régal ici. L'ananas, là, j'ai mangé de l'ananas, je peux te dire, c'est pas le même goût que l'ananas du Carrefour. Hein.
Oui, ça c'est sûr.
Et
parce que...
les mangues et les bananes, tu retrouves le vrai goût des fruits. Donc
c'est
pour
beaucoup
le coup,
plus
là,
frais.
Ici, l'avantage, c'est
et les fruits, c'est à volonté.
Voilà, c'est beaucoup plus frais. Ouais. Et les fruits, c'est pas. C'est à volonté si tu veux. Oui, ça peut être à volonté, ouais.
Ok.
Donc, après, c'est beaucoup de fibres aussi, donc il faut faire attention à la volonté avec le Kenya parce que.
Oui, c'est sûr.
Vite
méfie-toi quand même, tu peux le payer sur 2-3 jours après, quoi. C'est ça, c'est sûr.
C'est ça,
mais on parle de l'aspect mental. Là, faire un stage de 3 semaines avec des repas imposés comme ça et tout, c'est dur hein, quand même. C'est pour ça que Violette, peut-être qu'il faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'on peut pas se restreindre comme ça sur une longue période quand on est sportif de haut niveau.
Ça dépend si là il y a effectivement une restriction au niveau des quantités. Après, j'ai pas l'impression, mais c'est vrai que retrouver ses marques,
pas ce que tu manges,
non,
tu vois, c'est collectif donc. À un moment, ça peut peser sur le mental aussi, non ?
C'est vrai que la plupart des coureurs préfèrent quand même bien maîtriser leur alimentation. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai aussi des sportifs du quotidien donc qui mangent au restaurant d'entreprise. Et puis, par contre, c'est vrai que c'est plus facile le soir parce qu'au moins, ils savent ce qu'ils mettent dans l'assiette.
Bien sûr.
C'est plus simple à maîtriser. Et il y a une vraie problématique aussi quand on fait des courses à l'étranger, qu'on part une semaine et qu'on se dit « Ok, en fait, je vais être obligé peut-être de manger au restaurant. Est-ce que je prends un hôtel ? Est-ce que je prends un Airbnb ? Comment est-ce que je m'organise pour manger ce que je veux 3 jours avant le marathon, quoi.
Est-ce que je remplis ma valise
Moi, le conseil que je donne,
vas-y,
le conseil que je peux donner aux coureurs, c'est maintenant de prendre des appartements et des Airbnb. Ouais. Parce que trouver un restaurant à l'horaire où tu as ta compétition veille de course à essayer de trouver un Italien pour avoir des pâtes et dans des proportions suffisantes.
Et pas trop grasse.
Je trouve que c'est quand même une vraie galère. Hein.
Exactement.
Et pas trop grasse parce que voilà, les pâtes du resto, généralement, elles baignent dans l'huile hein, ouais. et dans la crème. Donc, c'est vrai que là, pour moi, le conseil que je donne aux gens qui font du marathon, c'est de garder leurs habitudes. Hein.
Bah ouais, voilà, beaucoup de bons conseils donnés. On s'est régalé avec tout ce que vous nous avez appris et justement tout de suite on passe au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et le bon plan matos aujourd'hui est en lien avec le thème du jour, le poids par rapport à la course à pied. On vous fait gagner une balance de la marque Tanita. Ce sont des balances ultra complètes. Vous pouvez aller voir ça sur internet avec plusieurs mesures très importantes. Ça mesure le poids évidemment, ça mesure le taux de graisse corporelle, la masse musculaire, le niveau de graisse viscérale ou encore l'IMC dont on a parlé tout à l'heure avec Violette, donc l'indice de masse corporelle. Un outil important au quotidien qui vous donnera des statistiques détaillées qui vous aidera justement à surveiller votre poids. Si vous voulez tenter votre chance, c'est très simple. Vous allez sur les réseaux sociaux d'RMC Running, notamment Instagram. On va le faire gagner sur Instagram cette semaine. Et vous mentionnez deux de vos amis en dessous d'un post. Et comme ça, vous êtes éligible pour le tirage au sort. Bonne chance à tous. Et un grand merci à Violette Duval qui était avec nous donc, cette semaine dans RMC Running. Merci Violette. T'as une course de prévue bientôt ou pas ? Tu prends les dossards un peu ?
Ouais, je vais faire le semi de Paris, le marathon de Paris.
Ah bah voilà, magnifique. C'est quoi l'objectif alors ?
Ah bah nickel.
Sur le marathon, c'est
3h15. Ah bah chapeau, pas mal hein. Bon,
c'est pas mal, ouais. Bel objectif.
T'as ta stratégie de nutrition, c'est bon ?
Ouais.
Ça, il n'y a pas de problème sur ça.
Ça devrait le faire, ouais.
Ah bon, ouais,
ça
va. Si tu fais une hypo...
Ouais, t'as pas d'excuse. Carton rouge, là. Là, t'as pas le droit. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais tu reviendras d'ailleurs, Violette, pour, à quelques jours du marathon, rappeler les bons conseils, comme ça, en termes de gel et de recharge glucidique pendant la course, parce que ça, c'est vrai que ça fait toujours un peu peur. Et il y a une question forcément que je suis obligé de te poser. Tu vas utiliser les éco-cups ou tu vas avoir tes flasques ? Parce que ça, c'est un enfer. T'as prévu ça ou pas ?
C'est une bonne question. Après, sur marathon, je ne bois pas énormément en général. Donc ouais, j'hésite encore, mais...
Et c'est une question qui revient d'ailleurs. Quelle quantité de liquide sur un marathon ? Qu'est-ce qu'on doit boire sur un marathon ? Quelle quantité ?
Sur marathon, ça dépend en combien de temps on le fait. Parce que j'ai des athlètes qui le font en 2h30, 2h40... La déshydratation, elle n'est pas hyper prononcée en fonction des conditions climatiques. Après, ça dépend si on fait Paris, si on fait Séville.
Oui, bien sûr. Bien
ça dépend de plein de choses. Mais s'il n'y a pas un gros risque de déshydratation, on va juste boire un petit peu pour faire passer les gels.
Ouais.
Et si par contre, il fait très chaud, là, il faut s'hydrater beaucoup plus parce qu'il y a un vrai risque de déshydratation. Et puis, si on fait un marathon en 4h, 4h30, 5h, là, l'effort, il est très long. Donc, effectivement, il faut beaucoup plus s'hydrater. Sinon, la déshydratation va être importante.
Merci, Violette. Tu reviens quand tu veux dans RMC Running. Tu reviendras pour parler de tous ces sujets. Bonne prépa pour le semi et le marathon.
Merci.
Alors. Merci Maître Yodu.
Courage.
Bon séjour au Kenya.
Merci
c'est,
à tous.
C'est quoi le repas ce midi alors ? C'est quoi le programme ? Ah, t'as déjà mangé ce midi ?
Ce midi, ouais, ce midi,
c'était quoi ?
Riz, un œuf, un peu de tomate et il y avait un beignet de légumes avec dedans du fou. Et quelque chose que je ne savais pas ce que c'était.
Eh bah, vaut mieux pas savoir. Tu te régales, hein, bravo, ça donne envie en
et
tout cas.
Et après, des très bons fruits, par contre, fruits, ananas, mangue et pastèque.
Bon.
Là, c'est régalade sur les fruits, ouais.
Magnifique. Merci Yodu, merci Violette. La musique qu'on a choisie, bah, c'est hommage au Kenya. Yodu, c'est toi qui nous l'as rappelé. Jumbo Buana, c'est la chanson d'arrivée
ça,
à l'aéroport,
hein,
c'est ça ? Ça donne ça, écoutez.
Tu l'entends partout, ouais. Jumbo
Buana. Et tu nous l'avais déjà dit, c'est vrai, les années précédentes.
Du Kenya, ouais.
Mais je suis sûr que t'es nostalgique quand tu t'en vas, en revanche, de cette chanson.
Ah, bah, nostalgique de, ouais, du Kenya, sauf au niveau nutritionnel, parce que c'est vrai que, bah, tu vois, tu manques de pain, tu manques de fromage, tu manques de viande rouge et de tout ce qu'on a l'habitude de manger en Europe. Mais par contre, de l'entraînement, ouais, t'es nostalgique, parce que c'est une vraie terre pour les coureurs. Hein.
Bien sûr.
C'est paradis sur terre pour s'entraîner, hein,
écoute,
même si c'est dur.
Entraîne-toi bien, l'audio se retrouve rapidement. Merci encore à Violette d'être venue dans RMC Running. Et toujours ce conseil, quand vous courez, quand vous mangez, quand vous faites ce que vous voulez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Jumbo, Jumbo Buana.